ça, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les manques vivants. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Et en petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégoire. Chaque semaine, c'est du Côte des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims, et puis sur les sites du Chat Noir 51 et aussi de OC Libertaire. Et Grégoire, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, normalement ce soir, on devait avoir quelqu'un au téléphone concernant la résistance qui s'organise autour du camp de Valognes, c'est-à-dire autour des castors qui vont partir normalement de Valognes dès demain. La Valogne, il faut dire, c'est près de l'Ag, hein, c'est le terminal en fait, hein, c'est là où partent ou arrivent d'ailleurs les trains chargés de déchets nucléaires. Alors celui-ci il part de Valognes, donc de La Hague, pour direction Gorleben en Allemagne. La résistance en Allemagne a toujours été forte par rapport à ces castors quand ils arrivent. Et là, pour la première fois en France, c'est certainement lié à deux événements qui se sont déroulés. Le premier, bien évidemment, c'est le truc tragique, c'est de Fukushima. Enfin, quand je dis tragique, c'est l'accident majeur qui s'est passé à Fukushima. Et puis, la manif qui a eu lieu à Rennes, dont on vous a parlé ici, sous cette antenne, il y a de ça 3 semaines, je crois, 1 mois peut-être. Et c'est là qu'a été décidé de faire un camp à Valognes, un camp...
C'est pas réellement là que c'était décidé. Il y avait des gens qui avaient cette idée-là et ça a été largement discuté lors de la manifestation de Rennes et puis après quoi.
Voilà. Alors raconte un peu parce que tu en sais peut-être plus que moi. Bien malheureusement, alors ce soir, j'explique un peu aux auditeurs qui vont être un peu frustrés tout de même parce que ce soir normalement on devait avoir des gens de camp. En particulier, une des personnes du CRAN, c'est le comité anti-nucléaire là-bas, qui a fait un énorme boulot par rapport à Valognes, et au téléphone. Malheureusement, on peut pas les avoir parce que tout simplement, le camp s'organise dès aujourd'hui.
Oui, puisque en fait, il devait commencer demain, et donc vu que Areva a décidé d'avancer, ouais, parce que ils sont de la mobilisation et donc ils pensaient prendre de vitesse tout le monde. Alors, deux choses. Donc, un rappel, c'est que les centrales nucléaires provoquent des déchets qui doivent être traités. Et en Europe, il y a 2 endroits où sont traités ces déchets. C'est à Sellafield en Angleterre et à La Hague en France. Énormément de déchets sont traités par Areva à La Hague. Et donc ils arrivent et ils repartent de Valognes, puisque c'est là qu'est le terminal des trains. Et donc là c'est un train de déchets qui repart vers l'Allemagne. C'est un train énorme puisqu'il va faire à peu près 450 mètres de long. pour 2000 tonnes. Alors, pourquoi on dit castor ? Castor, c'est l'appellation anglaise de fût de stockage, de transport de matériaux radioactifs. Et donc, en anglais, ça donne casque for storage and transport of radioactivity material. Donc, c'est de là que vient le nom de castor. C'est pas un nom qui a été inventé par les antinucléaires, c'est leur nom. Alors, donc, dans un premier temps, donc, il faut que c'est transporté par camion, de La Hague, jusque Valogne, et ça a été fait la semaine dernière. Ça a commencé à partir le 14 novembre. Alors, donc, ils sont transportés en train jusque Dannenberg, en Allemagne. Donc, ce qui représente en gros à peu près 2000 kilomètres, voilà. Donc, et là, à Dannenberg, ils vont être à nouveau chargés dans des camions pour être emmenés là, à Gorleben, là où ils vont être stockés. Okay. Voilà. Alors, donc, ce qu'on sait du train, hein, on va déjà parler du train. Donc, le train, il est composé de deux locaux, de trois voitures de voyageurs qui vont transporter deux compagnies de CRS.
Ouais.
Et puis, 11 wagons de déchets vitrifiés. Alors, les déchets vitrifiés, c'est les déchets les plus radioactifs. Alors, ce qu'il faut savoir là-dedans, donc, là-dedans, on va retrouver 300, en fait, dans les castors, dans les 11 castors, on va trouver 301 conteneurs. Alors, il y a 10 colis de 18 conteneurs, un colis de 21 conteneurs et 7 conteneurs factices. Donc, à l'intérieur, on met aussi des conteneurs qui ne contiennent rien. Voilà. Alors, donc, il y a, jusqu'ici, il y a de temps en temps, des choses qui se font, de la résistance, très peu.
Surtout du côté allemand, quand même.
Du côté français. Alors, il y a très peu de résistance. Alors, pourquoi ? C'est que, en gros, Greenpeace et le réseau Sortir du Nucléaire partent d'un truc en disant les Allemands ne font rien. Parce que la résistance a toujours lieu lors du retour. Les Allemands ne font rien
à l'aller,
donc on ne voit pas pourquoi nous on ferait quelque chose au retour.
Ça c'était l'histoire, historiquement c'est vrai.
Donc c'est ce qui est toujours vrai. Donc de temps en temps, il y a eu quand même des choses. Avec un truc tragique il y a quelques années où Sébastien Briat a été tué par un train castor alors qu'ils essayaient de l'arrêter sur la voie. Voilà. Donc c'était ça. Donc le fait qu'apparaisse cette année un camp d'opposition au castor avec comme but avoué de faire en sorte que le train ne démarre pas de Valogne, a obligé un peu tout le monde à revoir un petit
ses positions.
Ouais, ses positions. Alors, ce qui est très marrant, c'est que Greenpeace a tout de suite fait un communiqué en disant que ceux qui faisaient ce camp, c'était des vilains anarchistes et que il fallait pas y aller, il fallait pas s'en mêler et que ils feraient des actions non violente, en gros distribution de tracts un petit peu partout, puis faire savoir que y a un méchant train qui circule, quoi. Par contre, apparemment au sein du réseau ou de ce qui existe, ça a créé des clivages, ce qui fait que le réseau Sortir du Nucléaire, par exemple, est maintenant s'est senti obligé de parler du camp de Valogne. Et d'en faire un peu de pub, même si bon, ils aiment pas trop, quoi. Et puis de cette fois-ci de ressortir les horaires, parce que pendant un moment, ils publiaient les horaires de passage du train. Et donc, il ne le publiait plus en disant, donc suite à des recommandations de l'État qui disaient que ça pouvait donner des idées aux dangereux terroristes qui pourraient s'attaquer au train. Voilà, c'était un peu ça. Donc il y a, on sent que ça a relancé quelque chose. Le fait qu'il y ait ce camp, cette idée de faire quelque chose à Valogne. Alors après, on pourra en discuter, on pourra en faire le bilan, parce que il y a des tendances différentes qui se retrouvent là-dedans et qui ne sont pas toutes sur les mêmes bases.
C'est pas forcément grave, ça. C'est pas forcément grave. Parce que le principal, c'est que, bon, alors tu l'as dit, le camp de Valogne est fait. Est appelé pour faire en sorte que le train démarre pas. À côté, il faut pas se faire d'illusions, le train va démarrer. Faut pas non plus partir sur cette base-là puis dire après que c'est une défaite. Non, je crois que comme le mouvement allemand, le mouvement français est sur des bases qui doivent être les mêmes, c'est-à-dire faire en sorte que pour la France et pour l'Allemagne, ça leur coûte le maximum de pognon,
voilà,
ces transports. Et en particulier, les flics qui là-bas qui sont en nombre. Certainement des milliers de flics, etc. Il faut que ça coûte le maximum de pognon à l'État français, ça c'est clair, et à Reva en particulier.
Alors de toute façon, on a vu des copains de camp ce week-end, ils disaient que c'est le délire. L'autre jour, il y a eu un pique-nique d'organisé pour discuter autour du camp de Valogne. Il y avait des flics partout, il y avait l'hélico qui surveillait. C'est l'état de guerre, quoi.
L'état de guerre, oui.
Voilà. Alors, si vous voulez plus d'infos sur le camp de Valogne, donc qui a commencé aujourd'hui, qui a débuté aujourd'hui, alors demain, des débats qui sont organisés, et donc jeudi, donc demain on est mardi, et mercredi, donc c'est là qu'il devrait y avoir une tentative de faire en sorte que le train ne démarre pas, ou du moins s'il démarre, qu'il y prenne déjà énormément de retard. Et donc il y a un site où on peut aller pour avoir toutes les infos, c'est http://valognestopcastor.noblogs.org et puis /621.
Donc là, je crois que si tu tapes Valogne Stopcastor, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Hein.
Alors pour les horaires, il faut aller sur un autre site. Pour l'instant, c'est sur le site donc http://groupe.sortirdunucléaire.org /transport-la-Gorleben. Et là, il y aura les horaires en ligne. Alors, donc nous, dans la région, on est concernés parce que le train pour redescendre, pour aller en Allemagne, il faut qu'il prenne un trajet qui passe dans la région. Donc, quoi qu'il arrive, le train passera dans la nuit de jeudi, de mercredi à jeudi, à Laon. Il passera dans l'Aisne. Après, il y a deux possibilités. Ou il va vers Hirson, Charleville, il rejoint la Meuse. Donc là, ça sera les Ardennes aussi qui seront traversées. Soit il se dirige vers Laon, Reims, Châlons, Bar-le-Duc, et puis il continue son chemin. Donc pour l'instant, d'après ce qu'on sait, d'après Sudrail, le trajet retenu, ça serait celui qui passerait par l'Aisne et les Ardennes, mais ils ont filé aussi des horaires, parce qu'il y a, ils ont des horaires au cas où le train changerait déciderait de changer de direction au dernier moment, quoi.
Je voulais dire quelque chose justement. Alors, si le train Castor passe en région Champagne-Ardenne, apparemment ça pose pas de problème à Reims, parce qu'il y a des élus écolos, verts et tout ça qui ont fait des déclarations récemment, comme quoi c'était pas un problème. Il suffisait simplement de prévenir les élus, parce que c'était le plus important, les élus, surtout s'ils sont verts, n'est-ce pas, hein, de les prévenir du passage d'un Castor. Or, le train, il peut s'avérer, comme en région parisienne, il passe en gare, hein, il peut passer dans une gare, il peut être caché dans une voie à proximité des transports de passagers classiques, je dirais, de transport d'élèves allant dans les établissements scolaires, venant de Charleville, allant vers à Reims, justement. Tout est possible, donc toutes les mises en contact sont possibles. C'est ça qu'il faut précisément dénoncer, parce que ça se produit non seulement à Reims, mais sur tout l'itinéraire concernant la Meuse, les Ardennes évidemment, la Meuse, la Lorraine, etc. quoi. Donc ça, c'est quelque chose à dire avec force. Et on ne sait pas, évidemment on ne sait pas, et donc on ne sait pas où ça passe. On ne sait pas la vitesse de circulation, les gens qui travaillent à la SNCF ne savent pas non plus, sauf au dernier moment, qu'il y a un train qui va s'annoncer. Donc, et de toute façon, ces gens-là ne sont pas protégés, hein, ils n'ont absolument aucun équipement de protection. Alors les équipements sont réservés
aux flics,
à la police du rail. Alors c'est quand même assez édifiant, cette société de merde qui fait circuler des convois de déchets radioactifs et qui protège seulement une certaine élite, c'est une élite, on peut le dire, hein, c'est les troupes d'élite de l'État français, de l'État nucléaire, pour acheminer ces convois vers Gorleben, quoi. Donc voilà, c'est tout.
Est-ce que on aura des choses à dire là-dessus ou pas? Enfin, j'espère que ça coûtera le maximum de pognon à l'État français et à l'État allemand,
ouais,
on peut dire. Hein. Et voilà, bon, je pense que cette histoire fait en sorte, enfin, ce qui s'est passé là, ce qui se passe actuellement, ça fait quand même réfléchir pas mal de gens, plus qu'avant, bon, parce qu'il y a eu Fukushima, et puis il y a le fait que, bon, la revendication d'arrêt total immédiat du nucléaire, ben, commence à faire son chemin, et on espère que ça va faire encore plus son chemin, et que... Alors le problème, c'est qu'on rentre dans une période électorale de merde, hein, qui fait qu'il y a des alliances et des dispositions qui sont prises entre les Verts, qui veulent bien sûr participer à la part de gâteau si le PS gagne, donc ils voudraient effectivement des sièges, etc., parlementaires, voilà. Tout ça. Bon, ben, ils vont effectivement s'asseoir sur les décisions du lobby nucléaire, parce que le lobby nucléaire, au niveau du PS, c'est aucun problème. Il a ses entrées depuis très longtemps, depuis le début, depuis 1980, voire avant, qui fait que de toute façon, que ça soit la gauche ou la droite aux prochaines élections, eh bien, on aura toujours le nucléaire s'il n'y a pas de mouvement social, ça, faut en être persuadé, et qu'il y ait ou non des Verts au gouvernement, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon. Ouais. Donc voilà, je crois que par rapport à ça, il faut le dire et le redire, ces Verts, vraiment, sont des politiciens de merde, qui de toute façon, par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire récente, et en particulier, on parle de l'EPR qui est en train de se construire à Flamanville, il faut dire que si cet EPR a été décidé, c'est grâce à l'abstention des élus verts au niveau de la région. Hein, faut quand même le dire, quand la décision a été prise de construire cet EPR à Flamanville, les Verts qui étaient élus au conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, et de la région Nord-Pas-de-Calais, donc, se sont glorieusement abstenus pour que le projet passe. Ça, faut jamais l'oublier, quoi. C'est que, et puis demain, quand, s'ils sont au pouvoir, ils feront bien évidemment la même chose. Bon, il y a toujours des effets de manche, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que, mais de toute façon, il y a un accord qui sera fait, et que par rapport à la lutte antinucléaire et le pouvoir, les Verts, il y a longtemps qu'ils ont choisi, ils ont choisi le pouvoir.
Alors, donc, si on... par rapport au passage du train, donc là, à titre indicatif, s'il n'y a rien qui le bloque jusque dans le secteur, alors, s'il prend l'option de passer par Laon-Reims, il devrait arriver à Laon vers 3, donc le jeudi matin très tôt, vers 3h49 ou 4h07 en gare de Lens. Donc, ce qui fait un passage à Reims entre 4h30 et 5h, je pense.
D'accord.
Si il prend l'autre option, l'option nord, il arriverait donc à Hirson vers 4h43. Entre 4h43 et 5h21. Hein, c'est les infos qui ont été communiquées par Sudrail. Donc, et après, il traverserait les Ardennes. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez faire quelque chose, consulter les horaires pour savoir. Donc, sachant qu'il va falloir se lever tôt.
Ok.
On fait une pause musicale ?
Une pause.
Why is it dear? Are you such a homesick?
on va parler maintenant un peu de répression, une fois n'est pas coutume. Le mardi 15 novembre, c'est-à-dire il y a 6 jours,
une semaine,
oui, il y a 7 domiciles qui ont été perquisitionnés. C'est passé comme dans la presse par une centaine de gendarmes, s'il vous plaît, qui ont saisi ordinateurs, téléphones, livres, affiches et effets personnels de tous les habitants. À l'issue de ces perquisitions, il y a 7 personnes qui ont été placées en garde à vue, 4 sont auditionnées et une famille en cours de régularisation, des Tchétchènes je crois, a été arrêtée puis finalement relâchée dans la journée. Il y a quand même eu 32 heures de garde à vue. Quatre personnes ont été placées en détention provisoire, le sont toujours, sur demande du juge d'instruction, un certain monsieur Suc. Une personne est placée sous contrôle judiciaire, une autre doit rester à disposition de la justice pour le reste de l'instruction en tant que témoin assisté. Alors, pourquoi on en parle? C'est parce que tout simplement, c'est une action, on le reproche, une action qui a été menée le 5 juillet dernier. Il y a les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse de l'Abège. C'est donc à côté de
Toulouse,
dans le Lot-et-Garonne, c'est ça.
En Haute-Garonne.
Ont été chamboulés, tagués, dans le but de protester contre la participation de la PJJ à l'enfermement de mineurs. Parce que l'EPM, c'est-à-dire
l'établissement pénitentiaire
pour les mineurs de Lavaur, qui est à côté, eh bien associe la PJJ et l'administration pénitentiaire. Et bien sûr, il y a des gosses là-dedans qui sont jugés irrécupérables, qui se font défoncer glorieusement par les mastards cagoulés des IRIS, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, pendant que la PJJ, les éducateurs pleurent sur leurs conditions de travail.
Oui, attends, il y a des IRIS qui sont dans ces établissements
qui interviennent dans tous les lieux pénitentiaires. Rappeler l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur connaît des difficultés graves depuis son ouverture, enfin depuis qu'il existe. Hein. Il y a déjà eu plusieurs cas de tentatives de suicide.
Oui,
je ne sais même pas s'il n'y a pas eu.
Il y a eu des suicides.
Voilà,
il y a eu des suicides réussis.
Il y a des mutineries. C'est extrêmement difficile. Hein. C'est un lieu extrêmement difficile. Et donc, on peut imaginer, je le découvre en même temps que tu le lis, qu'effectivement, il y a eu intervention des IRIS dans ce type d'établissement.
Donc, les IRIS, c'est une police spéciale affectée, a priori, dans les prisons.
C'est pas une police spéciale.
Non,
c'est un corps spécial
de matons qui porte cagoule et qui va mener des opérations de tabassage.
C'est des matons volontaires qui interviennent dans d'autres établissements lorsqu'il y a des révoltes ou autres à l'intérieur de ces prisons.
Oui, ça existe depuis quelques années. On en avait parlé ici à l'antenne quand ça s'est créé. Ça, hein. C'est vraiment pour mater les rébellions dans les lieux pénitentiaires.
Et l'EPM, même s'il s'agit de mineurs, est considéré comme un lieu pénitentiaire puisqu'il est géré parce qu'il est géré aussi par l'administration pénitentiaire. Ça, c'est clair. Hein.
Oui.
Le drame là-dedans, c'est que le PJJ joue un mauvais rôle là-dedans, de fait. Hein. C'est les contradictions, c'est moins qu'on puisse dire, importantes dans ce type de fonction sociale.
Mais des contradictions, oui et non, parce que ça s'appelle maintenant protection judiciaire de la jeunesse, et ça depuis les années 80, mais c'était avant l'éducation surveillée.
Ouais.
Et donc, ils ont toujours eu comme fonction de s'occuper des mineurs incarcérés.
C'est vrai, voilà. Tout à fait.
Donc ça change pas, en fait. Faut pas s'en étonner. Ça a changé de nom, mais fonction n'a pas changé.
En quelque sorte, c'est le retour aux fondamentaux, quoi, de l'éducation surveillée. C'est-à-dire, les fonctions basiques de matonnage... tel que ça se présentait dans les centres de détention, dans les îles et compagnie. Sauf que là, c'est sur le territoire national.
Oui.
Alors, c'est le coup de la PJJ. Bon, effectivement, on a eu la visite d'un certain nombre de gens qui voulaient protester clairement par rapport à ça. Je crois qu'ils avaient laissé un tract sur place où la revendication était claire. Alors, les 7 personnes qui ont été arrêtées, eh bien, le comité de soutien dit clairement que les personnes arrêtées soient coupables ou innocentes, c'est pas un problème, c'est pas ça le problème, peu importe, c'est mis clairement dans le communiqué qu'ils ont fait. Ils disent aussi en conclusion que, qu'en construisant toujours plus de murs, en nous enfermant physiquement derrière des barreaux ou dans des cases qui nous séparent, le système judiciaire et carcéral s'abat aujourd'hui comme il s'abat tous les jours sur tant d'autres pour préserver des privilèges blancs, bourgeois, patriarcaux. On n'éteindra pas notre âge ni nos solidarités. Voilà, c'est ce que dit le comité de soutien qui demande la liberté pour elle et pour eux. Il s'agit de deux garçons et deux filles. Liberté pour toutes et tous les enfermés.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment, la gendarmerie est venue avec donc avait des noms, avait six noms en fait. Et tout de là, donc ils en ont profité pour faire le tour des squats.
Bien sûr.
C'est pour ça que il y a eu cette squat. Donc avec dans un endroit, ils ont trouvé effectivement une famille qui était pas immigrée, qui était pas en situation régulière, mais bon, ça s'est bien terminé pour eux. Et donc dans les autres squats, tous les autres personnes qui se trouvaient dans ces squats n'ont pas eu affaire à eux. Ce qu'ils cherchaient, c'était ils avaient des noms et ils voulaient.
Ouais, ça c'est l'enquête policière. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand même il y a des chefs d'inculpation qui sont aujourd'hui ceux-là, ceux que je vais vous dire. Ça peut changer. Hein, un chef d'inculpation peut toujours évoluer. Alors on reproche à ces 7 personnes, dont 4 sont incarcérées, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction et de dégradation de biens, c'est le premier point. Violence commise en réunion sans incapacité, ben oui, il n'y a personne qui a été blessé, hein, il n'y a personne. Et puis dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, ben oui, on imagine que c'est les ordinateurs qui t'ont un peu peut-être souffert. Voilà. Alors bon, on aura certainement l'occasion de reparler de cette affaire. N'empêche qu'on s'aperçoit quand même, parce que bon, par rapport à ce type d'action, il n'y a jamais eu des éducateurs qui ont été attaqués dans cette histoire. Hein. Ils ont simplement attaqué du matériel, tagué, et puis ils ont revendiqué leur histoire politiquement. Bon, certains dont moi-même autour de cette table, on a fait ce type déjà d'action dans notre militantisme, c'est moins qu'on puisse dire. On l'a revendiqué et ça s'est pas terminé comme ça se termine aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation au niveau du sécuritaire, c'est quelque chose quand même. Hein, aujourd'hui, ils ont quand même fait une méga enquête pour ça, et il y a eu 100 flics qui étaient là-dessus. C'est quand même un peu incroyable. Ça, je fais le parallèle par rapport à ce qui s'est passé à l'Antartrage.
L'Antartage. D'une députée espagnole.
Alors deux mots quand même avant. Donc il y a un comité. Donc il y a un comité qui s'appelle le CAGE qui les soutient. Bon, les quatre s'ils sont incarcérés, c'est entre autres parce que ils ne bossaient pas. C'est une des raisons qui a fait qu'ils se retrouvent.
C'est typique hein, du fonctionnement de la justice. Hein.
Et donc ils ont il y a besoin de fric. Alors, si vous voulez participer, alors on a oublié de prendre l'adresse du CAGE pour envoyer des dons financiers. Vous nous envoyez un mail à lechatnoir@club-internet.fr et on vous donnera si vous voulez aider financièrement, on vous donnera l'adresse du CAGE sans problème.
Moi, avant, j'aimerais savoir préciser la garde à vue prolongée et est-ce qu'on en est aujourd'hui à une situation de détention préventive.
C'est ça. Sans préventive. Oui, s'ils sont incarcérés à Cesse, c'est qu'ils sont en détention préventive. En attente du résultat des tests ADN. Alors, pour vous donner une idée, comment ils ont fait pour choper l'ADN des gens, ben, ils ont piqué entre autres des fourchettes ou une petite cuillère des gens qui... Voilà.
Qui était enfermé. Alors, oui. À signaler que ce type d'ADN, hein, généralement, ouais. C'est minable. C'est-à-dire que quand on voit, il y a quand même des contradictions incroyables. Et, quand on voit, quand ils prélèvent à quelqu'un l'ADN, ils prennent des précautions pas croyables. C'est-à-dire qu'ils te donnent dans la bouche un truc qu'ils te font, etc., pour te sortir l'ADN. Alors que là, tu touches un objet, ils vont essayer de te trouver l'ADN. Ouais. C'est quoi ça? C'est des ils vont tirer quelques, ils appellent ça des séquences qui seront minables. C'est-à-dire que bon,
alors, micro-séquences.
C'est des micro-séquences de merde.
Donc la personne qui est pour l'instant témoin assisté, elle a refusé de donner son ADN et de toute façon comparaîtra pour refus qu'on fasse un prélèvement ADN.
Oui, puis moi je voudrais quand même insister sur la détention provisoire.
Préventive, oui.
Oui, préventive. Il faut quand même juste rappeler que selon leurs propres règles, leurs propres lois, c'est l'exception. C'est quand on n'est pas sûr que la personne va se présenter, c'est quand on pense qu'il y a un risque qu'elle récidive. Or, il me semble que quand on a saccagé des locaux...
On n'y retourne pas tout de suite. Quoi.
Une simple, entre guillemets, parce qu'on ne serait pas plus satisfait si c'était le cas, mais une simple convocation à comparaître au tribunal est largement suffisante. Donc là, on voit bien qu'il y a un déballage de moyens, y compris la détention, qui est complètement disproportionné avec ce qui s'est passé.
On est dans la démonstration. De toute façon, on est dans la démonstration de force et de moyens, effectivement.
Pour foutre la trouille.
Oui, c'est oui, oui. Pour foutre la trouille, et peut-être aussi parce que ça touche un domaine qui est particulièrement difficile à gérer pour le pouvoir, c'est justement l'incarcération des mineurs. Parce qu'il faut savoir que il y a peut-être pas mal de problèmes avec les prisonniers adultes, mais il y en a des bien pires avec les prisonniers qui sont pas majeurs. C'est-à-dire qu'on a des comportements jusqu'au boutiste avec les mineurs. Et ça, ils le savent. Alors c'est soit des comportements autodestructeurs très graves, et il y a un pourcentage, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a rappelé, très important de tentatives de suicide et d'atteinte à soi, hein, à son intégrité physique. Et il y a aussi... un jusqu'au boutisme qui s'exprime par n'importe quel comportement agressif et pas seulement auto-agressif. Et donc, ils ont énormément de mal à gérer ce type de structure.
Non, on a parlé tout à l'heure de l'entartage. Hein. Alors, il s'agissait... en fait, on a déjà parlé ici, j'espère qu'on va en parler bientôt.
Ça se passait à Toulouse.
Voilà, ça se passait à Toulouse. Ça concerne la lutte contre le TGV. Et en particulier, cette lutte existe depuis très très longtemps du côté espagnol. Je crois qu'on avait fait une interview de quelqu'un et on espère en reparler bientôt, puisque cette lutte existe toujours aujourd'hui. Que justement, l'une des responsables de cette promotion du TGV en Espagne était dans une conférence à Toulouse. Et ben, elle s'est fait entarter par des militants. Voilà, le problème c'est que ça l'entartage, il y en a eu des tas en France, hein. Bon,
en Belgique.
D'ailleurs, ça part de la Belgique,
oui,
hein,
oui, oui. Pas,
hein. C'était, je me rappelle plus du célèbre
le gloupier.
Ouais, c'est ça.
Noël Godin.
Oui, c'est Noël Godin qui avait lancé cette affaire. Alors là, ça prend des proportions complètement dingues. Puisque ces trois opposants au TGV qui ont été reconnus et qui sont espagnols, qui ont refusé d'ailleurs de s'exprimer devant un juge pour lequel ils étaient convoqués.
Tu brûles un peu les étapes. En fait, ça se passe sur le territoire français. Il y a une représentante du gouvernement espagnol qui vient vanter les bienfaits du TGV. Il y a des militants espagnols, enfin côté espagnol en tout cas, qui viennent pour dénoncer ça avec banderoles, interruption de la séance.
Avec des militants français.
Et soutenus par des militants français aussi. Et donc un entartage. Et les entarteurs sont, paraît-il, reconnus. Bon, peut-être. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est pas du tout en France qu'ils sont convoqués, c'est en Espagne. Et là, il risque plusieurs années de prison.
Oui, entre 4 et 6 ans de prison.
Hein, Alors, à l'audience nationale, où ils sont convoqués, ils refusent de s'exprimer, effectivement, parce que la plainte ne peut pas émaner, ne peut pas faire l'objet d'une présentation devant l'audience nationale espagnole.
Côté espagnol, puisque les faits se sont produits en France.
En France. Donc, on est vraiment dans une situation... Bon, effectivement, c'est l'Europe. Là, on parle du TGV, on parle d'un projet, de nouveau ces projets qu'on a des dizaines, des centaines de fois dénoncés. Je crois que il y a quelque temps, on parlait de l'Italie, de la lutte notave en Italie, où là, il y a eu un nouveau ministre qui a été nommé pour régler les affaires de gouffre de l'Italie. Et qu'est-ce qu'on apprend immédiatement? Il y a un ministre qui est nommé à propos de l'environnement et de je ne sais quoi d'autre, qui déclare directement qu'ils allaient s'intéresser de près à la question du nucléaire et qu'il était hors de question d'abandonner le TGV. Donc on en est là. Aujourd'hui, on a des pays qui sont littéralement en faillite, qui sont et je veux dire, et pour cause, ça fait des décennies que ça dure, les gabegies financières. Et là, on peut dire que toute la classe politique est corrompue dans ces gabegies, y compris l'Europe, puisque c'est l'Europe qui est la maîtresse d'œuvre de ces infrastructures européennes. Et aujourd'hui, alors que les pays et les populations sont obligés de se saigner au niveau de leur subsistance, eh bien, il y a des nouveaux ministres. Il va y en avoir des nouveaux en Espagne bientôt, là, ça y est, ça y est, il y a le nouvel appareil politique de droite bien musclé qui va justifier les projets d'infrastructure. Alors comment se fait-il qu'on en est là? Eh bien, d'une part, en Italie, derrière tout ça, il y a la mafia qui alimente ces chantiers, qui engraisse toute une partie d'une clientèle, hein, y compris la clientèle politicienne, politicarde et politicienne. Et en Espagne, eh bien, c'est pareil. On a ce projet qui a pris une dimension différente parce qu'en fait, il y a des chantiers qui sont menés tronçon par tronçon dans des endroits souvent magnifique du Pays Basque ou de l'État espagnol, et contre l'avis des populations, évidemment. Et aujourd'hui, le mouvement décide de faire un entartage qui est criminalisé au même titre que une action de terrorisme. Donc voilà, on en est là aujourd'hui j'allais dire merde in France, mais non, c'est merde in Europe, c'est le capitalisme made in Europe qui ne veut changer en rien ses projets de destruction et de destruction des territoires pour implanter des infrastructures. Pour quoi faire? Pour engraisser les industriels comme Vinci, comme Bouygues et tant d'autres. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment.
Je voudrais juste rappeler qu'il y a à peu près une année, il y avait eu un ou deux maires de petites communes côté espagnol qui se sont retrouvés au tribunal eux aussi, simplement parce qu'ils avaient osé organiser un référendum au niveau de leur commune pour savoir si les gens étaient pour ou contre le TGV. Et rien que le fait d'avoir osé organiser un référendum, il se retrouvait inculpé et donc en jugement. Donc voilà.
Donc ça en dit long en fait sur le fameux débat perpétuel qu'il y a entre violence, non-violence et tout ça. En fait, ça c'est des faux débats parce qu'on s'aperçoit que des gens, un élu qui fait un référendum d'initiative populaire, il se fait cartonner, il se fait accuser
d'atteinte à l'État. Hein,
voilà, d'atteinte à l'État, exactement. On est là dans des proportions incroyables. Et c'est pareil en Italie. Lorsqu'il y a des actions de résistance, eh bien, juste pour vous donner encore un exemple, en Italie, là, le territoire du Val de Susa a été déclaré zone militaire où il est absolument interdit de pénétrer. Donc, en fait, on va avoir des chantiers désormais qui seront des chantiers totalement militarisés. C'est-à-dire il va y avoir une entreprise, même si elle est fantôme, escortée par des militaires. Donc voilà, c'est ça la démocratie made in Europe avec ces fameuses infrastructures European Roundtable of Industrialists.
Moi, je terminerai par une note optimiste. L'entartage, il a été filmé, il a circulé sur Internet et qu'est-ce qu'il était beau. Get a full-time
by any murals. You've become what you wanted to be for so long.
Bon allez, puisqu'on parlait tout à l'heure de la police, vous savez peut-être que le tribunal de grande instance de Paris a décidé, le 14 octobre 2011, de répondre à la demande du gouvernement français en proclamant l'interdiction du site internet copwatchnord-idf-île-de-france.org. Alors, copwatch, je sais pas, c'est copwatch-nord. Voilà, -idf.org. Alors, ce site internet est interdit pour l'instant. Il faut dire que le ministère de l'Intérieur avait porté plainte contre X pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police. Effectivement, ce site se permettait, et se permet encore, d'ailleurs, je vais en parler, se permettait, eh bien, de suivre un petit peu un certain nombre de personnes de la BAC, de démontrer que ces personnes de la BAC, eh bien, on les retrouve dans les mouvements d'extrême droite, ils ont des accointances avec des gens d'extrême droite, entre autres. Il permettait aussi de dire un petit peu le fonctionnement de la BAC en banlieue, hein, où la plupart du temps, c'est des forces de désordre, c'est moins qu'on puisse dire, qui provoquent la plupart du temps les jeunes. Et ce site, donc, produisait ce type de choses. Il disait d'ailleurs que avoir établi des bases de données regroupant des informations sur des membres des forces de l'ordre qui, de par leur statut, représentent l'État et la République dite démocratique, et sont donc des personnes publiques de par leur choix professionnel. Ces bases de données sont des outils au service des individus amenés à rencontrer ces personnes publiques, outils le permettant de savoir à quoi s'en tenir. Là, je cite exactement ce site qui a été interdit. Alors, pour clarifier leur démarche, les responsables de ce site ont écrit que, contrairement au gouvernement, nous n'avons que faire de la vie privée de ces flics, sauf lorsqu'il s'agit de liens avec les différentes composantes de l'extrême droite, des liens bien souvent gênants pour le gouvernement et les membres des forces de l'ordre concernés directement ou indirectement. Voilà. Alors, cette histoire de surveillons la police, ça vient des États-Unis dans les années 90. Je crois que c'était les conséquences de ce qui s'était passé à Los Angeles, hein, où il y avait eu un certain nombre de militants qui avaient dit, ben, les flics nous filment. Nous, on va filmer aussi les flics, on va enquêter aussi sur eux. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas claires. Donc depuis, eh bien, ça a été repris un peu en France, donc dans le Nord et en Île-de-France. Ce site est interdit, mais en fait, ce site vit toujours. La censure du pouvoir n'a pas réussi à avoir sa peau grâce au site miroir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un site miroir? C'est un site qui est hébergé sur une ligne internet personnelle située hors de France. C'est-à-dire la France ne peut pas avoir accès à ce site et l'interdire, puisque c'est une ligne internet personnelle qui se situe hors de France. et c'est ainsi qu'il reste facilement accessible. J'ai été voir, vous pouvez y aller. Leur liste, alors vous, il suffit de taper Weirbold, alors je vais vous déplaire parce que c'est quelque chose, hein, mon anglais. Mais de toute façon, je suis peut-être pas le seul. weirbuild.eu, États-Unis, hein, /wiki/copwatch. Alors copwatch. Et là, vous avez une liste de sites miroirs qui changent tout le temps, évidemment, hein, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de brouillage, etc. Mais ils changent tout le temps et généralement, vous pouvez avoir des informations sur le fonctionnement de la police dans le nord de la France, en Ile-de-France. C'est ainsi que quand il y a une RAF à Paris, et c'est pratiquement plusieurs fois par semaine dans certains quartiers, et bien généralement ces gens-là sont là, ils filment les scènes et ça se retrouve sur Internet. Voilà. Vous avez des choses à me poser comme question?
Juste, on peut rajouter que là, très récemment, il y a un sociologue qui a sorti quelque chose sur les bacs en France. Enfin, je pense que beaucoup de gens en ont entendu parler. Mais il me semble quand même que peut-être le livre est intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu, mais... Donc, c'est un bouquin qui s'appelle La force de l'ordre. C'est Didier Fassin qui a enquêté pendant plusieurs mois, apparemment, au sein d'une des bacs. Et apparemment, il dresse un portrait qui est assez accablant. Nous, on ne l'apprend pas. Hein.
Oui, on ne l'apprend pas.
On connaît les pratiques des BAC et de la police.
On voit qu'ils ont des beaux macarons.
Hein. Ouais. Alors, là, dans le livre, ils décrivent que sur certains emblèmes donc utilisés par ces BAC, par exemple, il y en a un, c'est une cible sur une cité. Donc là, ça veut tout dire, quoi. Hein, et donc, bon, voilà, il décrit ça. Il y a tout un article, là, dans Libération, de je sais plus quel jour, du 18 novembre, à ce sujet-là. Peut-être que le livre est intéressant aussi.
Moi, ce que j'ai saisi, c'est que il y avait très souvent des membres de la BAC qui venaient des fins fonds, des territoires
ruraux,
et qui débarquaient en milieu urbain, dans des territoires exactement comme en situation coloniale, hein, et que effectivement c'est pas un hasard si sur les macarons ils ont des immeubles avec une cible, parce que ils sont vraiment dans un film, quoi, perpétuellement dans un film où il faut faire des cartons comme s'ils étaient presque dans un jeu vidéo ou comme s'ils étaient dans le prolongement d'un film de M6 et que ils faisaient non seulement du chiffre mais des attaques permanentes des populations. Tu disais des jeunes, mais c'est aussi des populations, des quartiers, tout simplement, hein, des grands quartiers, des grands ensembles, où là, les gens disent clairement qu'ils sont considérés comme du bétail.
Oui, et puis de toute façon, je reprends, puisque c'est le bouquin en vogue actuellement, là, c'est-à-dire quelque chose qui a l'air sérieux, puisque c'est un sociologue qui l'écrit. Hein, c'est pas des petits jeunes excités sur un site internet qui se planquent. Non, là, c'est un vrai sociologue. Alors lui, il dit que, par exemple, les gardiens dits de la paix, quand ils vont sur le terrain, ils appellent ça la jungle. Voilà, c'est un exemple. Et quand ils parlent des gens, des gars, des types, ils disent les bâtards. Voilà, ce sont leurs terminologies, quoi. Voilà, donc.
Moi, je voudrais juste rappeler que nous avons parlé souvent ici avec des copains ou copines du MIB, du mouvement de l'immigration et des banlieues, et qui sont parmi les premiers à avoir dénoncé ces brigades, anti-criminalité, qui comme des grands délinquants, en fait, des grands délinquants.
Oui, la plupart du temps, c'est des gens qui ont des comportements de voyous.
Qui mènent des actions, coup de poing, et le MIB en a énormément souffert, puisqu'ils ont mené des actions très très dures par rapport à toutes les campagnes que le MIB pouvait mener, quoi. Voilà.
Ce qui est bien, quand même, c'est que ça commence à se savoir, quand même. La preuve, c'est qu'il y a un bouquin qui sort. Alors bon, c'est quand même intéressant, tout de même, que ça soit... popularisé, quoi, que ça ne reste pas dans des cercles restreints, etc. Donc c'est très bien que ce bouquin sorte.
Alors simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que L'enquête a été faite il y a 2 ou 3 ans et que depuis, il n'y a plus de possibilité de faire une enquête au sein des BAC. C'était avant que le bouquin sorte encore.
Oui. Parce que bon, le sociologue en question, il avait eu des autorisations pour le faire en plus. Hein. Voilà, donc. Alors, s'il nous reste quelques instants, je crois simplement, on a parlé tout à l'heure du fichage ADN, il faut savoir que la contestation juridique du fichage ADN est partie. J'en avais parlé sur cette antenne, il y a eu un certain Xavier Renoux, qui est d'ailleurs le fondateur des Désobéissants, donc vous pouvez avoir tous les renseignements sur leur site des Désobéissants, qui avait été condamné d'ailleurs en juin 2010 à 3 mois de prison avec sursis. Et pour avoir embêté un petit peu l'ancien secrétaire général de l'Élysée, un certain Hubert Védrine. Ensuite, pourquoi il l'avait embêté? Tout simplement parce que Védrine avait été dénoncé comme étant pas clair du tout par rapport au génocide au Rwanda. Et donc, il avait été condamné en 2010 et on lui avait proposé le fichage ADN. Il avait refusé. Il est passé au tribunal correctionnel de Senlis le 7 novembre, et à ce procès, j'en avais déjà parlé, une certaine généticienne, Catherine Bourguin, qui a apporté la preuve du caractère codant des segments ADN en contradiction avec la loi française. Actuellement, quand ils nous piquent l'ADN, il faut savoir que maintenant, au niveau des nouvelles technologies, au niveau des nouvelles découvertes, eh bien, on peut savoir beaucoup de choses, beaucoup plus que votre identité. On peut savoir finalement si vous n'allez pas avoir une maladie plus tard, si vous avez des risques donc génétiques. Mais on peut savoir aussi, bien évidemment, si de quelle partie du monde vous êtes, si vous êtes caucasien, si vous êtes européen, si vous êtes ceci ou cela. Et alors que la loi française dit que ce qui est piqué au niveau de l'ADN, c'est non codant, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir d'autres renseignements. Ça veut dire que là-dessus, il y a une bagarre actuellement qui se mène. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site des Désobéissants pour en savoir plus, puisque la justice, pour la première fois, n'a pas condamné Xavier Renoux et a justement reporté son procès au mois de février 2012 pour se donner le temps de lire les nouvelles découvertes au niveau de la génétique. Et normalement, ces découvertes sont en anglais, elles devraient être traduites et elles devraient être disponibles à tous ceux qui passent en procès pour refus d'ADN. On en refusera.
Les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mantelines. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était donc Grégoire, une parole anarchiste communiste. Chaque semaine, sur l'École des Garrigues, Montpellier, Canal Sud, à Toulouse, et Radio Primitive sur Reims. Et aussi, chaque semaine, sur les sites Le Chat Noir 51 et Aussi Libertaire.